Bonjour, je suis Didi et je suis ravie de vous accueillir sur Le Grand Large, un podcast pour se reconnecter à soi, à l'autre et à la planète. Avec ce podcast, je veux donner la parole à des personnalités inspirantes pour qu'elles partagent avec nous des clés pour faire des choix plus éclairés. Bonne écoute!
Les grandes entreprises sont-elles forcément le mal ? Oui, je mets les pieds dans le plat, d'entrée de jeu, ambiance ! Pour aborder ce sujet ô combien épineux, je me suis penchée sur le cas de Mustela, la marque de produits de soins et d'hygiène pour bébés, femmes enceintes et jeunes mamans, créée en 1950. Vous êtes d'ailleurs peut-être comme moi un bébé Mustela, le lait de la marque est clairement une madeleine. Oui, mais voilà, à l'instar de beaucoup de marques, Mustela a dû se réinventer, à la fois pour proposer des produits à la composition plus clean, mais aussi pour répondre à l'urgence climatique. J'ai commencé à aborder ces sujets directement avec la marque lors d'un voyage de presse fin septembre, et j'ai eu envie d'en savoir davantage, parce que quelques heures pour venir à bout d'un sujet aussi vaste, c'est bien trop court. Peut-on conjuguer entreprise et responsabilité sociale et environnementale ? Pour en parler, je reçois aujourd'hui Sophie Rebervelu, que je vais laisser se présenter. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Mustela, que je remercie.
Bonjour Sophie.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de venir à mon micro. Alors, ta fiche LinkedIn dit que tu es Chief Operating Officer. Je vais lire pour ne rien omettre. Dermocosmetics, Dermatology and Rheumatology Chief Operating Officer pour Dermocosmetics. Et enfin, Dermatology pour les laboratoires Expansions. Donc concrètement, est-ce que tu peux me dire ce que tu fais ?
Alors déjà, je vais vous le dire en français, ce sera plus simple. En français, je suis DG des activités. Et nos activités chez Expansion, c'est de la dermocosmétique, puisqu'on a deux marques de soins pour toute la famille. Une marque qui est hyper connue qui s'appelle Mustela, et puis une marque américaine qui n'est aujourd'hui représentée qu'aux États-Unis et à Hong Kong et qui s'appelle Babo Botanicals. Donc ça, c'est la partie activité dermocosmétique. Et puis, on a une deuxième activité chez Expansion qui est la rhumatologie. Et globalement, on s'intéresse à la santé de l'articulation des gens quand ils commencent à passer les 45-50 ans et sur des logiques de prévention de l'arthrose ou de traitement de la douleur de l'arthrose. Voilà, et donc moi, mon boulot, finalement, c'est d'être responsable à la fois des 14 filiales du groupe, donc qui génèrent finalement l'activité, les revenus de l'entreprise, des équipes qui vendent les produits aussi à des distributeurs, puisqu'on a une activité filiale et une activité aussi à des distributeurs dans une centaine de pays. Et puis, je suis responsable des équipes qui font les marques, finalement, qui développent le portefeuille de produits, qui décident ce qu'on lance pas, comment on le fait. Donc, vraiment la partie stratégique. Voilà, et j'ai la charge, en gros, de 95% du chiffre d'affaires de l'entreprise et de toutes les équipes associées à ces activités.
Une paille, en somme.
Ouais.
Alors, je crois qu'avant, tu avais travaillé pour le groupe international numéro 1 mondial de l'industrie cosmétique, pour ne pas le citer. Comment on passe d'un géant du CAC 40 à une bicorp plus familiale ?
Alors moi, j'ai pas envie de taper trop sur celui qui m'a nourrie pendant une quinzaine d'années, et d'autant plus que pendant ces 15 ans, j'ai appris plein de trucs. J'ai aussi j'ai fait ma découverte de ce que c'était que la RSE dans ce groupe, puisqu'il y a eu un moment dans ma carrière où j'ai intégré la première marque bio de ce grand géant de la chimie. Et donc, c'était hyper intéressant parce que d'un coup, je me suis mis à parler avec des agriculteurs à qui on achetait 100% de leur récolte, en labellisation biosolidaire. J'ai découvert la première charte de développement durable de ce groupe, puisque c'était chez L'Oréal. Voilà, j'ai pas de problème à le dire. Mais à une époque, finalement, ils parlaient pas tellement de RSE. Et donc, c'est venu aussi par cette petite marque-là. Et finalement, c'était hyper intéressant pour moi d'apprendre comment deux mondes peuvent se rencontrer, comment il y a une remise en perspective de nos manières de formuler, d'envisager la consommation, d'envisager la beauté. Et ça, c'est arrivé à peu près au moment de la naissance de mon premier enfant. Donc, ça a été...
Hasard ou coïncidence ?
Ouais, mais ça a été un moment assez clé dans ma vie où je me suis mis à me poser des questions que je ne m'étais jamais posées avant. En revanche, au bout de 15 années, effectivement, tout au long de ces 15 années, je n'ai pas arrêté de challenger le modèle. Et c'est normal, finalement, que les plus jeunes questionnent les plus vieux dans une grosse entreprise comme celle-là. Et quand tu découvres finalement que l'humanité a atteint les limites au-delà desquelles les océans, la forêt, l'atmosphère qu'on respire, l'eau qu'on boit, vont plus nous permettre de vivre aussi correctement qu'avant, tu te poses des questions. Et du coup, je me suis beaucoup posé de questions, notamment sur le modèle économique dominant. Et L'Oréal est complètement dans ce modèle dominant. Et c'est normal, elle est cotée en bourse. Donc, il y a eu un moment où, quand tu découvres que l'arbitrage entre profit et CO2 ou plastique ou consommation d'eau va systématiquement quand même être en faveur du profit, parce que finalement le pouvoir est hyper dilué dans ces grands groupes, parce que tu sais pas à qui tu parles en fait. Même le grand grand big boss de L'Oréal n'a pas tout le pouvoir. C'est le marché qui a le pouvoir, et le marché, c'est pas une personne en particulier, c'est une espèce de divinité un peu intangible. Là, je me suis dit, en fait, je vais jamais arriver dans cette boîte à être parfaitement heureuse, parce qu'on va pas se donner les moyens d'être radicalement transformateur, quoi. Et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai été contactée par Expanscience, donc la boîte qui m'emploie aujourd'hui, et j'ai découvert que c'était à la fois une boîte 100% familiale, puisque j'ai qu'un seul actionnaire, ce qui est quand même assez précieux. Et puis, elle était déjà Bicorp hein, quand je suis arrivée. Et elle était, elle avait signé le pacte mondial de l'ONU donc sur les objectifs de développement durable en 2004. Donc, je les ai rejoints, moi, en 2019. Bon, tu te dis, finalement, cette boîte-là, ils étaient assez pionniers sur plein d'aspects.
C'est ce que j'allais dire, parce que 2004, c'est quand même très récent.
C'est très tôt.
Pour mener une politique de RSE.
Oui, et on en parlera peut-être après, mais c'est vrai que voilà, c'était une politique de RSE, sûrement des petits pas, sûrement pas assez rapide. Mais n'empêche qu'ils avaient commencé plus tôt que les autres. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que moi, je me suis dit, j'ai appris des tas de trucs que je vais pouvoir apporter à cette boîte chez L'Oréal, parce que chez L'Oréal, pour le coup, j'ai appris à faire un concept de produit pile-poil qui va super bien marcher. J'ai appris à faire une communication très efficace. J'ai aussi appris quand même à monitorer ce que je fais, m'assurer que je dépense le bon argent au bon endroit. Et en fait, quand tu as les bonnes valeurs et le bon objectif dans une boîte comme Expanscience, bah, ces compétences-là devenaient super utiles et intéressantes. Donc là, je me suis dit, enfin, je sais pourquoi j'ai appris tout ça pendant 15 ans chez L'Oréal, et je vais le mettre au service d'un projet qui me ressemble plus et sur lequel j'ai plus de prise, en fait. C'est pour ça que j'ai fait ce switch.
Ouais, c'est moins parcellisé, donc tu peux avoir une incidence beaucoup plus directe, en fait, par rapport à tes actions au quotidien.
Exactement. Et en même temps, par rapport à une toute petite entreprise où j'aurais pu, il y a plein de gens qui quittent L'Oréal et se disent tiens, je vais monter ma boîte, tu vois. Et en fait, ça me plaisait bien. J'ai toujours aimé, plutôt que de construire un truc neuf, j'ai toujours aimé rénover des trucs. Et je me dis que finalement, c'est plus intéressant en termes d'impact de prendre une entreprise qui a compris des choses, mais qui a encore beaucoup à faire. Et tu verras qu'il y a énormément à faire encore. On n'est pas du tout arrivé. Mais au moins, tu te dis, bah, il y a déjà une part de marché, il y a déjà une notoriété. Donc, en fait, je peux peut-être arriver à avoir de l'impact sur un plus grand nombre de gens que si je monte une toute petite entreprise qui sera nickel, mais qui va voilà, s'adresser peut-être à une niche de la population.
Ouais, en termes de notoriété, il y a beaucoup plus de travail à faire pour pouvoir effectivement porter un discours et porter des produits. Et puis, Dieu sait si en matière de rénovation, il y a des choses à faire. Moi, je sors d'une rénovation de maison, donc je peux t'en parler. Enfin, je sors. Je prends mes désirs pour une réalité, parce que je ne suis pas encore tout à fait sortie.
Tu vas te taper 2-3 mois de retard, normalement. C'est comme ça que ça marche.
Bah, oui, ça, c'est acté. Mais bon, j'ai fait quelques recherches sur Mustela et j'ai pu lire que c'était une entreprise à visée régénérative, difficile à dire, et une entreprise à mission. Est-ce que tu peux m'en dire davantage?
Déjà, quelques petites définitions. Une entreprise à mission, c'est une entreprise qui change ses statuts. En gros, quand tu crées une boîte, tu as des statuts dans lesquels tu vas dire, voilà, l'objectif de ma société, c'est le profit. Et ça, c'est la base d'un statut d'entreprise, c'est de mettre le profit au centre de l'objectif de l'entreprise.
Oui, c'est une entreprise.
Voilà, oui, mais c'est relativement récent quand même. Il faut avoir en tête qu'on n'avait pas le droit de créer une société au 19e siècle si elle n'avait pas un intérêt général validé par l'État. Donc, quand on dit l'entreprise a toujours été au service du profit, etc., c'est pas tout à fait vrai. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, la définition de l'entreprise, elle est comme ça. Et une société à mission, c'est un nouveau statut qui a été monté dans le cadre de la loi Pacte. Je ne saurais plus te dire quand, mais il y a quelques années à peine, hein, peut-être 5 ans, un truc comme ça. Et l'idée, c'était de dire aux entreprises, vous pouvez choisir un nouveau statut dans lequel vous intégrez en plus du profit un autre objectif que vous définissez avec vos salariés ou avec que votre actionnaire, si vous décidez de ne pas partager le pouvoir. Nous, en l'occurrence, c'est une définition d'objectif qu'on a faite collectivement. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, bah, tu te dis finalement, le profit et l'argent sont au service de cette mission, mais on décide tous ensemble qu'on a une utilité et un but dans la vie qui n'est pas forcément juste d'enrichir notre actionnaire. Et ensuite, pour vérifier que tout ça s'est fait et que ce n'est pas du greenwashing, on crée un comité de mission qui est un comité indépendant, opposable, c'est-à-dire qu'il peut, comme un commissaire aux comptes, ne pas valider nos missions de l'année. On est obligé de leur proposer des objectifs à ce comité de mission indépendant pour l'année d'après, mais aussi pour dans 5 ans, pour dans 10 ans, tu es obligé d'avoir quand même une feuille de route un peu longue. Et chaque année, tu leur dois de rendre compte sur est-ce que tu as donné les moyens à tes salariés d'y arriver Et est-ce que tu y es arrivé? C'est-à-dire que c'est pas qu'un objectif de moyens, c'est aussi un objectif de résultat. Et ce qu'on a décidé, nous, c'est que dans ce comité de mission, on mettrait à la fois des experts des objectifs qu'on s'est donnés, notamment sur le climat, la biodiversité, et puis trouver un peu des moyens de créer des systèmes de coopération inter-entreprises. Donc, on a pris des gens, soit économistes, soit spécialistes du climat, soit biochimistes, etc. Et puis, on a aussi pris des gens internes à l'entreprise, un peu plus jeunes que la moyenne de notre comité de direction, j'ai envie de dire, et qui, du coup, peuvent aussi, alors qu'ils sont dans l'entreprise et qu'ils sont salariés, s'exprimer et juger de la bonne conduite ou pas de notre mission. Donc ça, c'est le cadre du statut à mission. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir que, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, on avait commencé dès 2004 à se poser ces questions de c'est quoi les objectifs de développement durable, comment on peut être une entreprise responsable. Alors, je ne vais pas faire comme Mattel qui nous explique que Barbie était féministe depuis sa création.
Bien entendu.
Mais c'est vrai que, disons que voilà, c'est, la boîte, elle a été créée en 1950, en même temps que Mustela. Donc non, entre 1950 et 2004, il s'est quand même passé pas mal de temps, j'avoue. Mais disons que 2004, c'est relativement pionnier, effectivement, sur un premier passage à l'acte d'engagement, on va dire, environnemental et social. Après, pendant une dizaine d'années, il y a eu une démarche d'offre, on va dire, plus responsables. Donc, ils ont commencé à travailler sur l'éco-conception des produits, travailler sur des packaging biodégradables, mais ça restait quand même quelque chose d'assez basique si tu regardes à l'aune de ce qu'on exige aujourd'hui, finalement, des entreprises. Ils ont naturalisé les formules, et heureusement, parce qu'il y avait la grande catastrophe des parabènes qui sortaient, donc c'était aussi le bon moment pour le faire. Donc, il y a eu tout ce travail, mais c'est clair que dans les années 2020, on a fait un peu le bilan de tout ça, et on s'est dit, bon, on a bien travaillé, on s'est bien développé sur ces sujets, mais notre démarche, elle n'est pas encore suffisamment radicale, elle n'est pas à la hauteur des enjeux climatiques et biodivers. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2021, on est rentré à la fois dans la Convention des entreprises pour le climat, qui est un espèce de parcours apprenant pendant un an qui nous a permis vraiment d'aller beaucoup plus loin sur la définition de nos objectifs et de comment on allait réussir. Et on est devenu société à mission en même temps pour mettre un cadre juridique, j'ai envie de dire, à ces objectifs. Voilà comment ça s'est passé. Et alors, visée régénérative, bah, ça vient de la CEC, puisque l'idée, c'est de se dire, mais finalement, est-ce que c'est possible, quand tu es une entreprise, d'avoir comme objectif de réparer? Parce qu'on a beaucoup cette idée que l'entreprise, finalement, elle détruit.
Oui, et que finalement, le meilleur produit, c'est celui qui existe déjà et que tu n'as pas acheté. Donc,
ouais, ça c'est vrai, mais on part du principe que l'entreprise... c'est OK, finalement, de ne penser qu'à ta thune, quoi. Je suis un peu cash, mais... Et en fait, non, on s'est dit, mais quand les premières entreprises, tu vois, l'argent, l'échange, le troc, tous ces trucs-là sont nés il y a fort longtemps, c'était parce qu'il y avait un besoin, puis qu'il y avait une réponse possible à ce besoin. Et donc, je pense qu'il faut qu'on revienne à ces définitions-là et se dire, si je peux faire mon activité tout en préservant les écosystèmes dans lesquels j'œuvre, mais aussi même en contribuant à les réparer, nom de code, si dans mon usine, il y a une rivière qui passe, il y a... La version basique, c'est faire en sorte que l'eau que je rejette ne va pas être trop polluante ou pas polluante, voilà, ou pas prélever trop d'eau. Mais tu pourrais carrément te dire, bah, finalement, et si ce que je rejette contribuait à repeupler en poisson, à revégétaliser, etc. Donc, c'est vraiment cette idée d'inclure une notion de réparation et donc d'une action positive, pas que pour ton profit, mais aussi socialement et environnementalement parlant.
Et ça, c'est possible. Parce que tu vois, tu parles de ça, mais on ne perd pas de vue donc, le produit final avec un consommateur qui n'a pas envie de le payer trois fois son prix par rapport aux promesses qui sont tenues par le produit. Et puis aussi parce qu'il y a une réalité de terrain qui fait que, voilà, inflation, on ne peut pas se permettre de mettre trop cher dans les produits qu'on utilise au quotidien, que ce soit pour ses bébés ou pour soi. Et du coup, comment tu conjugues concrètement entreprise et responsable? Parce que finalement, quand tu dis on va faire en sorte que l'eau qu'on va rejeter dans les usines soit... plus clean pour l'environnement, qu'elle répare telle ou telle chose, forcément, ça a un coût, ne serait-ce que de recherche, puis d'adaptation de l'existant. Donc, comment tu fais pour que ça ne se répercute pas concrètement sur le prix de tes produits?
Alors, le premier truc qu'il faut faire, et donc déjà, est-ce que c'est possible? Je n'en sais rien. Je ne suis pas une entreprise régénérative, que ce soit clair. C'est-à-dire qu'on a commencé en 2021 à réfléchir sur le sujet et on a commencé à s'y mettre assez vite. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un boulot de fou. Mais on a des objectifs de régénération à horizon 10 ans, hein, 10-15 ans. Donc, ça va prendre énormément de temps. En revanche, ce qui est possible, c'est de tout de suite changer tes lunettes. C'est-à-dire que si tu veux des résultats différents par rapport à ce que tu faisais avant, il faut changer de boussole, changer de lunettes, changer de définition du succès finalement. Et notamment, compter ce qui compte. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu ne comptes finalement que les euros, le cash que tu gagnes, mais que tu ne mets pas de valeur à l'eau que tu dépenses, à la pollution plastique que tu génères, au CO2 que tu émets dans l'atmosphère, bah c'est sûr que de toute façon, tu n'as pas du tout intérêt à t'intéresser à ces sujets-là, puisque ça ne te coûte rien. Et dans le capitalisme qu'on connaît aujourd'hui, dès la fin du 19e, il y a eu un certain nombre de penseurs qui disaient « la nature, elle est gratuite et illimitée ». Or non, en fait, elle n'est pas illimitée, elle n'est pas gratuite, parce que si tu comptes l'argent qui va être nécessaire pour réparer les écosystèmes, les sols pollués, l'argent qui est dépensé par les États sur tout ce qui est pollution, juste en santé publique. Si tu réfléchis, à un jour, il va falloir dépolluer les océans, combien ça va coûter ? Il y a eu la Banque Centrale Européenne qui a fait, il y a 2 ans maintenant, un stress test, qu'ils appellent. Et donc, ils se sont dit, imaginons, on est en 2030, les États n'ont rien fait sur tel sujet de pollution, de carbone, je crois qu'ils étaient que sur le carbone, et il y a de la montée des eaux à tel endroit, etc. Voilà le coût, la facture que ça va coûter si personne ne fait rien. Ce sera beaucoup, beaucoup plus cher que si on fait. Donc en fait, la grande question au niveau du compte de résultat d'une entreprise, c'est de commencer à se dire, je vais mettre un coût à mon carbone que j'émets. Et si je mets ce coût-là, dans mon compte de résultat à la fin de l'année, je vais voir que finalement, je ne suis pas si positif. Alors c'est théorique pour l'instant, parce que l'État ne nous oblige pas à payer une taxe carbone, mais elle arrivera un jour ou l'autre. Donc nous, on se prépare à ça, en commençant à comptabiliser ça, et on se rend compte que du coup, imaginons, je te donne un exemple même encore plus simple que la taxe carbone. Le gaz, le prix du gaz augmente très fortement. Poutine fait un bras de fer sur le gaz avec les États européens, donc ça ne va ne faire a priori qu'augmenter. Et quand bien même certains disent « non, mais quand même l'année prochaine, ce sera plus bas », je veux dire, à très long terme, on sait que le prix des hydrocarbures en général va augmenter. Donc, si tu te passes des hydrocarbures, par exemple, dans ton usine, et nous, ça va être le cas, on va investir dans une chaudière biomasse, c'est-à-dire une chaudière qui utilise du déchet de bois, de forêt, évidemment, à côté de chez nous, dont on s'assure que c'est replanté, etc., parce que sinon, ça ne sert à rien d'avoir des fausses bonnes idées. Et bien, si on fait ça, ça va nous coûter plusieurs millions d'euros, mais ce sera rentable dès la 3e année, parce que le prix des hydrocarbures qu'on n'aura plus à payer aura tellement augmenté que de toute façon, ce sera plus rentable de se chauffer au gaz, entre guillemets. Donc, c'est aussi cette capacité à mettre les vrais coûts dans ton analyse financière pour réaliser que finalement, c'est coûteux, mais c'est moins coûteux que de ne rien faire. Donc ça, c'est un premier truc qu'on a fait dans l'entreprise très vite. Ça a été vraiment de commencer à travailler sur la comptabilité carbone, sur ce qu'on appelle de la comptabilité en triple capital, c'est-à-dire au lieu de compter que les euros, tu comptes les euros, l'impact social, c'est-à-dire le coût du travail, est-ce que les gens sont en meilleure forme, est-ce qu'ils sont plus heureux, est-ce qu'ils vont coûter plus cher peut-être à la sécurité sociale française ou pas, tu vois. Et puis ensuite, l'environnement, effectivement, et donc comment tu répares autour de toi, ou en tout cas, comment tu contribues à ne plus être un facteur aggravant du dépassement des limites planétaires. Donc ça, c'est un premier truc qu'on a fait. Et après, pour cette visée régénérative, ce qu'on travaille principalement, et je ne te ferai pas tout le plan parce que c'est trop long, mais notre rapport de mission est disponible, tout le monde pourra aller le lire. Ce qu'on a fait principalement, c'est de repenser notre offre de produits. C'est-à-dire qu'en fait, il faut s'imposer de ne plus lancer des produits inutiles ou pas essentiels. Même si tu as un concurrent qui fait, j'ai donné un exemple l'autre fois, un soin pour le cordon ombilical. Quand un bébé naît, il ne faut rien mettre sur son cordon. T'as l'équipe à la maternité qui va mettre un peu de bétadine et puis un pansement, et basta. Et t'attends juste que ça tombe. Mais il y a plein de marques qui ont lancé, dans plein de pays différents, des produits de soins au cordon ombilical. Et ça cartonne, et tout le monde en achète. Donc mes équipes, normalement, font leur travail et nous disent « Tiens, on pourrait lancer ça, franchement, ça cartonne. » Et là, la question, c'est « Mais est-ce que c'est vraiment utile ?» Globalement, les agences de santé recommandent de ne rien faire. Donc on va balancer ce produit. Donc c'est un manque à gagner, mais en fait, c'est vraiment un truc important de ne plus lancer des produits qui ne servent plus à rien. Et après, c'est même important de retravailler ton catalogue en disant ce produit-là que j'ai déjà, je vais peut-être l'arrêter. Mais on en reparlera peut-être plus tard autour des lingettes.
Oui, mais non, mais parlons-en maintenant, justement, c'est intéressant. Moi, ce qui m'a frappé quand on s'est vu sur ce voyage de presse, c'était l'exemple des lingettes que tu as évoqué quand on en parlait. Donc, produit quand même lucratif, produit que tous les concurrents ont, que beaucoup de parents utilisent, mais produit écocide, puisque sans même parler de la production, c'est un produit qui va se retrouver dans les canalisations, qui va les boucher, etc. Donc, produit problématique, pour la jouer très courte et schématiser un peu le problème. Et donc, vous, Mustela, vous avez des lingettes, comme beaucoup de marques pour enfants, mais vous avez décidé de les arrêter, bien qu'elles soient lucratives, d'ici à 2027. Est-ce que tu veux justement un peu parler de ça ?
Prendre tes responsabilités en tant que business, c'est aussi savoir renoncer, en fait, et donc questionner les produits en cours. Donc, la lingette, tu l'as bien dit, c'est eutrophisation des sols quand c'est déposé en décharge, surtout si les jus à l'intérieur sont dégueulasses, plein de parfums ou choses comme ça. Et puis, c'est en plus, je crois que c'est 5% des débris flottants en Méditerranée. Pas que celle de Mustela, hein, mais quand même.
J'imagine. J'espère pour vous.
Bah oui, mais sauf que si tu regardes, on était leader jusqu'à l'année dernière, jusqu'en 2021, on était encore leader en Europe. Donc, non, en France, pardon, en France. Mais ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que jusqu'à une certaine réglementation, les lingettes pouvaient être en tissu mélangé plastique sans que les consommateurs ne le sachent, par exemple. Donc, il y a une loi qui n'interdit pas l'usage du plastique dans les lingettes, mais qui t'oblige à mettre un petit logo discret sur un côté, tu vois, où tu vois une tortue en train de mourir dans l'eau. Mais en fait, elle est assez mignonne, la tortue. Je suis pas sûre que les consommateurs comprennent bien ce truc. Mais effectivement, quand tu vois que tu jettes ça, et notamment des gens jettent ça dans les toilettes, mais surtout que ça se finit par se trouver dans les océans, c'est dégueulasse. Donc, jusqu'à présent, le parti pris qui avait été fait par les équipes, c'était d'améliorer l'offre pour en diminuer fortement l'empreinte. Donc là, actuellement, on a des lingettes lavables pour usage à la maison, qui sont en coton bio, certifié GOTS, donc tu as tout ce qu'il faut, voilà, et elles sont lavées en machine à la maison. Et puis après, en nomadisme, comme on dit, c'est-à-dire quand les gens vont prendre le train, voyager ou aller dans un parc, ils utilisent une lingette jetable, mais qui est compostable pour la nôtre. Donc on utilise en gros du lyocell, qui est une espèce de pulpe de bois issue de forêts bien gérées, et ça, on a fait une analyse de cycle de vie, c'est clairement la matière la plus respectueuse à la fois sur carbone, eau, travail, etc. Donc, on a fait vraiment regarder toutes les composantes. Bon, tu te dis, c'est bien, on a les meilleures lingettes du marché qu'on propose à nos consommateurs à un prix beaucoup plus élevé, très clairement. Donc, déjà, en 2 ans, on a perdu, je crois, 40% de parts de marché. Ça a été très rapide parce qu'on est sorti du côté promo à tout crin. Un, parce que sinon, effectivement, on perdait de l'argent à chaque fois qu'on en vendait une, mais aussi parce que je pense que ces produits, ces espèces de commodités, là, comme le sopalin, etc., moins c'est cher, plus tu vas en utiliser. Et je sais pas si toi, tu as utilisé des lingettes quand tu as des enfants encore jeunes, tu m'as dit. Donc, peut-être
mais non seulement on peut le conjuguer au présent, c'est-à-dire que c'est très difficile de trouver des alternatives parce que tu vois, quand on parle de lingettes réutilisables, il y a quand même un process de laver en machine. Donc, ça veut dire stocker quelque part la lingette sale, éventuellement gérer ce problème d'odeur. Et puis ensuite, je sais qu'il y a plein d'études et il faut se pencher un peu, mais je comprends qu'un consommateur qui n'ait pas le temps, cette fameuse charge mentale qui nous incombe à nous, les femmes, autour de ces sujets de la maternité, on va digresser, donc je vais aller très vite là-dessus, mais tu vois, à un moment, tu dis, est-ce que laver, ça, avec toute l'eau que ça va impliquer, supplémentaire, etc., est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Quand t'as pas forcément, enfin tu vois, il y a un moment quand tu essayes de te renseigner sur les produits, faut ouvrir un dictionnaire, faut partir dans des fouilles improbables sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Et c'est un temps dont les jeunes mamans, notamment, ne disposent pas forcément.
Alors moi, si tu veux, le premier truc, c'est qu'on s'est dit déjà, il faut pas faire un truc trop promotionné parce que quand tu tires tes lingettes, souvent t'en ramasses trop. Puis tu l'utilises pas très bien, puis tu jettes tout ça. Donc, il y a une sorte de gâche dans ce truc-là. Donc, je pense que c'est important aussi, à un moment, de payer le juste prix, mais du coup, de faire attention à ce que tu utilises comme matière, etc. Donc, ça a été une première étape. Mais effectivement, après, moi, j'ai vite dit, c'est pas aligné avec ce qu'on veut faire, il faut arrêter. Et j'ai eu beaucoup de gens en interne qui m'ont dit, ouais, mais tu laisses les gens dans une situation pas possible parce que c'est très compliqué. Il y a évidemment, moi j'ai discuté avec quelques entrepreneurs qui se disaient à impact dès le départ et qui me disaient, mais enfin, arrêtez les lingettes, c'est très facile. Moi, ma grand-mère, elle faisait pas avec les lingettes, elle se débrouillait très bien. Je dis, ouais, mais ta grand-mère, elle devait pas travailler, elle avait pas de machine à laver et ça devait pas être très simple sa vie. Donc, le côté, le remède de grand-mère est toujours le meilleur. C'est pas si simple et c'est pas pour rien qu'on s'est battu dans les années 60-70 et je pense qu'on a obtenu des acquis qu'il faut pas négliger non plus. Donc arrêtons de tout foutre sur la tête des femmes en plus parce que je pense qu'un mec il peut aussi bien laver sa lingette qu'une femme. Effectivement, tu as raison, c'est pas simple. Donc l'idée a été de faire plusieurs choses. C'est d'abord donc d'améliorer notre offre actuelle et puis de viser qu'en 2027 on va arrêter complètement. Même si les lingettes sont très utiles pour les parents. Et donc, la question qu'on se pose, c'est qu'on a 4 ans pour travailler avec les parents sur tout un sujet de comment tu ferais, comment on peut t'aider. Parce que même nos lingettes lavables, en vrai, en fait, si tu veux, la meilleure chose, c'est l'upcycling. Tu as un vieux drap, hop, tu déchires des petits bouts et puis voilà, c'est ça tes lingettes lavables. Donc moi, même ça, je veux arrêter d'aller chercher du coton bio, upcyclé, je sais pas quoi, qui vient de l'autre bout de la terre pour le faire venir ici, mettre un joli logo Mustela dessus. À un moment, l'idée, ce sera peut-être que c'est pas notre propos de faire ce genre de produit. Mais en revanche, c'est peut-être de donner des conseils aux gens sur comment faire. Et des choses très simples, ouais, je pars en voyage, qu'est-ce que je fais? Bah, t'as un Tupperware. Alors, c'est galère. Ce sera toujours plus galère que d'utiliser les lingettes jetables actuelles. Il y a un nombre de gestes actuels qui ont été faits pas pour rien, parce que c'est vrai que c'était plus pratique, mais qui sont tellement dégueulasses en termes d'empreinte qu'il va falloir s'en passer. Mais en revanche, je suis pas pour arrêter et laisser les gens se débrouiller. Donc, l'objectif, ça va vraiment être de deux ordres. C'est le premier que tous les nouveaux produits qu'on a lancés qui sont compostables, etc., faire en sorte que le reste de la profession s'en empare et s'ils ont envie de continuer à faire des lingettes parce qu'il y a des marques qui ne font que ça, par exemple. Donc, eux, c'est leur activité principale. Et bien, à la rigueur, qu'ils se mettent à notre nouveau standard, qu'ils passent sur Lyocell, qu'ils passent à des produits qui soient vraiment compostables en home compost, donc vraiment à la maison. Et puis, de l'autre côté, nous, ça va être de dire, bah, trouvons des solutions et puis faisons témoigner les gens. Donc, on a prévu... on ne voulait pas communiquer trop tôt sur cet arrêt des lingettes parce que je trouve ça un peu bizarre dans la tête des gens de leur dire dans 4 ans, il n'y en aura plus. Les parents d'aujourd'hui, en plus, ils n'utiliseront plus lingettes dans 4 ans, donc tu vois, c'est un peu complexe. Mais c'est de travailler de pair avec des parents en socioconception pour faire en sorte de trouver des solutions plus simples à la maison et de donner des conseils. Mais je suis d'accord, ce n'est pas si simple. Il y a des gens qui vont se sentir abandonnés par nous, c'est clair.
Non, et puis au-delà de ça, tu te sens jugée aussi dans tes actes, tu vois, parce que tu parlais justement du quotidien d'une jeune maman. Donc moi, mes enfants, ils ont 3 ans et 15 mois. Tu as tellement de sujets qui viennent, tu vois, que tu dois gérer. Et pourtant, je suis en couple et j'ai un mec qui fait largement sa part. Et ça y est, tu vois, d'ailleurs, j'arrive à ne plus dire « il est génial, il est formidable ». C'est déjà un grand, grand pas. Mais tu vois, on est deux pour gérer un quotidien avec deux enfants en bas âge. Et c'est une charge mentale énorme quand tu travailles à côté et que par ailleurs, tu t'épanouis en travaillant à côté. Hein, tu n'as pas spécialement envie d'être femme au foyer. Et en réalité, à un moment, tu te sens un peu acculée et tu te sens un peu... c'est fatigant. Moi, je sais que j'ai fait un pas en arrière, malheureusement, dans mon quotidien que je veux plus responsable et plus engagée quand j'ai eu des enfants. Parce qu'en effet, aujourd'hui, les solutions qui s'offrent à moi me semblent plus accessibles sur du... l'économie classique traditionnelle dégueulasse, aka les lingettes, versus, tu vois, de mettre en place autre chose. Les couches, c'est pareil. Dans le meilleur des mondes, évidemment, on prend des couches lavables et c'est super et on arrive à faire ça. Moi, jusqu'à il y a peu de temps, j'étais dans un petit appart à Paris avec une salle de bain qui faisait 3 mètres carrés. Où est-ce que je mets, clairement, hein, de manière très prosaïque et très terre-à-terre, où est-ce que je mets ma couche pleine de caca? Tu vois, il faut que je la fasse tremper, génial, mais où, comment, pourquoi? Enfin, tu vois, il y a un moment, voilà. Et donc, ça, je trouve que c'est très difficile. Et c'est pour ça que je trouve que t'as la version, tu vois, la vision de Mustela est intéressante. C'est qu'on arrête, mais on essaye d'accompagner cet arrêt et, tu vois, de donner un certain nombre de conseils. Donc, peut-être qu'en effet, et c'est même sûr, vous allez perdre des consommateurs dans la bataille. Mais in fine, donner des clés, c'est absolument essentiel si on veut, de toute façon, sans aller jusqu'à nous, en tant que consommateurs, comprendre tout ce qui est régénératif, etc., au moins comprendre et mesurer la portée de nos actes et voir comment, en fait, vers quelle marque on peut se tourner, quelles marques peuvent nous aider dans ces transitions qui sont, de toute façon, indispensables aujourd'hui.
C'est ça. Et après, tu vois, il y a dans la route pour la régénération, il y a aussi des choix qui sont de l'ordre plus de l'investissement de l'entreprise et qui vont pas coûter tant d'efforts aux consommateurs. Néanmoins, je suis toujours surprise par le fait que il y a un énorme travail quand même de discussion à avoir avec les utilisateurs pour qu'ils comprennent que tout le monde va devoir faire un peu des efforts. Je te donne un exemple tout bête, mais on a lancé il y a 3 ans maintenant les premières machines de vrac. Et heureusement, on a su rebondir en faisant aussi des machines avec nos concurrents, donc multimarques, tu vois. Et ça marche un peu mieux. Mais je suis quand même toujours étonnée de voir à quel point le changement du mode de consommation prend un temps infini. Mais d'ailleurs, souvenons-nous, l'absence de sacs plastiques, ça nous a mis combien de temps en vrai pour s'y mettre? Quasiment 5 ou 10 ans. Hein. Et le nombre de fois où on s'est dit « Ah mince, je vais devoir acheter un sac », etc. Et maintenant, ça y est, globalement, les gens se baladent assez... plus facilement avec un tote bag dans le sac, etc., pour faire la course. Mais ça prend énormément de temps. Et là, par exemple, on s'est donné 7 ans pour reformuler et changer l'emballage de tous nos produits. Et notamment, on a 3 objectifs sur la baisse du gramme de plastique par litre de produit. Tu vois, c'est ça qu'on regarde. Et on ne sait pas ce qui va prendre. Entre le solide, où tu peux emballer dans du papier, mais où tout le monde n'est pas enclin à se laver les cheveux avec un produit solide, à se s'hydrater avec un stick solide, tu vois, c'est quand même, il faut le frotter dans tes mains avant, etc. Donc, il y a plein de gens qui, pour l'instant, ne sont pas du tout prêts, mais on teste. Ensuite, tu as un deuxième truc qui est le vrac, mais pareil, là encore, tu sens que la pharmacie, c'est un peu un lieu de convenience, comme on dit, c'est-à-dire tu y vas en passant, en rentrant du boulot, mais tu vas pas prendre ton flacon vide que tu vas recharger systématiquement. Donc, pareil, ça demande vachement d'explications et de motivation de la part des consommateurs. Et après, tu as un troisième truc qui demande beaucoup d'investissement, mais qui sera peut-être plus facile pour les consos, qui est qu'on va investir dans une ligne d'éco-recharge. Tu vois, c'est tout bête, hein, mais en vrai, si tu veux vraiment faire 100% de tes produits en éco-recharge et que tu veux t'assurer que les consommateurs achètent l'éco-recharge, parce qu'aujourd'hui, les éco-recharges, je crois que c'est sur les pousse-mousse pour les mains, tu vois qu'il y en a le plus, mais ça reste un truc du genre 20% maximum de ce qui est vendu. C'est-à-dire sinon, les gens ont quand même continué à racheter un pousse-mousse à chaque fois. Et alors, sur les autres catégories, genre shampoing, gel douche ou hydratant, c'est encore peanuts. Donc, on sait qu'on va avoir un énorme travail dessus, mais quand même, je me dis que c'est plus simple. Mais ça veut dire, par exemple, qu'on va faire des choix drastiques sur la politique commerciale. On va arrêter toutes les promos sur les flacons avec pompe. Ceux-là, ils seront chers. Donc, c'est un risque. Hein. Ça veut dire que peut-être les gens vont abandonner complètement, tu vois, ce truc-là. Et toutes les promos, elles seront sur l'éco-recharge. Donc, on dira aux gens, bah, t'achètes une fois ton truc un peu cher, mais en revanche, après, l'éco-recharge est vraiment pas cher, etc. Mais bon, voilà. Ces paris-là, nous, on est prêts à les faire. Mais je préfère ne pas parier que sur un seul changement de consommation. Il faut qu'on propose plusieurs choses, quitte à abandonner. Peut-être qu'on abandonnera le vrac dans 3 ans parce qu'on se rendra compte que les éco-recharges ont vachement cartonné. Mais on ne sait pas encore finalement à quoi ressemblera le futur de la consommation, donc il faut tout tester.
Et justement, c'est assez intéressant parce que, tu vois, quand on se connecte sur le site de Mustela, finalement, rien ne nous fait penser qu'on est sur un site différent d'autres marques, un site engagé avec une entreprise à mission. Je regardais, il y a une offre en ce moment sur une promo en cours pour un produit, il y a une présentation, c'est une trousse spéciale, pour adopter une nouvelle routine beauté avec un bouton, tu vois, qui dit « je craque ». Donc, c'est vraiment une injonction à l'achat. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix? Parce que finalement, quand on t'écoute, le propos est très clair et on voit exactement où veut aller Mustela. Mais ce n'est pas encore très concret, je trouve, aujourd'hui sur le terrain.
Alors, ce n'est pas encore concret forcément sur un site e-commerce. Effectivement, là où on s'est d'abord focalisé, ça a été sur les réseaux sociaux. J'en pouvais plus, tu parlais de la charge mentale chez les femmes, etc. Quand je suis arrivée en 2019, il faut avoir en tête que Mustela, c'était que des femmes, il n'y avait pas d'hommes dans les communications, très peu de parents masculins. Il y avait beaucoup de blancs quand même, hein. Pas beaucoup de diversité de couleur de peau. Et puis, on avait encore des coffrets roses pour les filles et des coffrets bleus pour les garçons, tu vois. Et ce qui était étonnant, c'est que justement, 15 ans avant, l'entreprise avait fait ce mouvement et ils avaient commencé à se changer de l'intérieur, mais ils n'avaient pas du tout changé finalement l'injonction qu'ils envoyaient aux maires, parce que c'était finalement qu'aux maires qu'on s'adressait. Donc la première urgence qu'on a adressée, ça a été de dire, la marque Mustela ne doit pas juger, ne doit pas faire d'injonction contradictoire ou culpabilisante, donc arrêtez de dire aux maires, voilà ce que vous devez faire. En fait, non. Il n'y a qu'une mère qui sait ce qu'elle doit faire, ce qu'elle veut faire. Et donc, ça a été vraiment de dire, il y a autant de meilleurs parents que de gens, finalement, qui font un enfant. Et c'est hyper important de leur donner plutôt confiance en leur capacité de faire les bons choix pour leur famille. Donc, il y a eu vraiment un travail qui a été fait de dire à nos pays, parce que du coup, c'est chaque pays, tu vois, qui gère ses réseaux sociaux. Mais on a commencé à leur dire, voilà, à partir de maintenant, vous serez obligés de prendre quasiment tout ce qui vient de l'international, du corporate, parce qu'on a travaillé sur cette plateforme de marque pour qu'elle soit moins jugeante et qu'elle travaille plutôt à l'empowerment, en gros, des parents dans leur globalité, de tous les profils de parents. Donc, vous serez obligés d'utiliser nos contenus. Et deuxièmement, vous serez obligés de publier plus de 50% de vos contenus qui ne parlent pas de produits. Parce que finalement, ce qui va intéresser les parents sur ces réseaux sociaux, ça va être de leur parler de la dépression postpartum, qui était un gros sujet tabou jusqu'à il y a encore 4 ans. Hein, objectivement, personne n'en parlait. Donc, on a été les premiers à parler de ces sujets-là. Et je me souviens même en interne que les gens disaient « Mais attends, Mustela, c'est une marque joyeuse. Tu peux pas parler de ça. » Mais je m'en fous. Ta marque, elle est peut-être joyeuse, mais elle s'adresse à des consommateurs qui, à 30%, font une dépression après la naissance de leur premier enfant. Donc, en fait, tu vas pas leur expliquer que c'est le plus beau moment de leur vie. C'est pas vrai. Donc, écoute-les et adaptons-nous à leurs besoins. Et donc, ce travail-là, il a été hyper bien fait pour le coup, je trouve. Après, tu me diras, tu iras voir sur TikTok ou sur Instagram. Mais le travail maintenant, c'est vraiment de ne parler que... Donc, on met des guides sur le sommeil de l'enfant, comment aider à ce que l'enfant trouve son sommeil, parce que les enfants qui ne dorment pas, bah, c'est des parents qui divorcent, hein, globalement. Je crois qu'il y a, un lien assez direct. Tu as le baby clash, qui est en gros comment le couple s'en sort suite à la naissance de l'enfant. Tu as le retour à la sexualité, qui est très compliqué, parce que l'homme, au bout d'un mois, globalement, il se dit « bon, allez, ça y est, on repart pour un tour ». Et en fait, bah, il peut y avoir des femmes qui n'ont pas envie, qui ont mal, et qui n'osent pas le dire. Enfin, des choses assez dramatiques, mais en plus avec un père qui juste se pose pas la question ou pense que tout va bien, tu vois. Donc, l'idée n'est pas de culpabiliser non plus systématiquement les hommes, mais juste d'aborder le sujet dans un couple. On a abordé beaucoup de ces sujets-là ces dernières années. Et je te dis, le monitoring, c'est si tu n'as pas plus de 50% de tes contenus publiés qui sont sur autre chose que le produit et qui ne parlent que de parentalité, bah, t'es mal noté pour l'année, quoi. Donc ça, là-dessus, on le traque beaucoup. Sur le e-commerce, ça reste un site de vente en ligne, hein, le site où t'es allé. On s'oblige à avoir une partie blog, et qui est assez intéressante d'ailleurs, parce que souvent, les gens retournent sur le site aussi pour ça. Et on va évoquer ces mêmes sujets du bien-être parental. Après, ça reste un site de vente en ligne à destination des parents et les gens viennent sur le site pour acheter les produits. Donc, on parle des produits, c'est clair. En revanche, je suis d'accord avec toi, le « je craque », c'est une erreur de casting. C'est pas le bon champ lexical. Mais là où tu étais, par exemple, je suis allée voir. Après, tu as éveillé ma curiosité quand tu m'as dit que tu allais me poser cette question. Parce que du coup, je suis allée voir et bah, tu as trois volets effectivement qui parlent d'une animation, d'une promotion, d'une offre spécifique. Puis le quatrième volet où tu peux cliquer pour télécharger ton guide du sommeil de l'enfant gratos. Et d'ailleurs, il est extrêmement téléchargé, ce guide. On s'est rendu compte que c'était...
Ah bah, le sommeil, c'est un vrai sujet, oui.
Donc, si tu veux... et alors après, ce qu'on essaie de faire sur les offres elles-mêmes, on travaille beaucoup à dématérialiser les offres parce que malheureusement, quand même, aujourd'hui, les parents, quand ils vont sur les sites, c'est souvent pour soit offrir des coffrets cadeaux à la naissance d'un enfant, soit pour eux-mêmes, et ils cherchent ça. Donc moi, assez vite, j'ai dit aux équipes, mais on travaille, il faut mettre des offres sans goodies, quoi, sans cadeaux. C'est bon, moi, à la maison, je croule sous les trousses, enfin, tous sont sous les tote bags. Donc, à un moment, tu te dis, mais j'en peux plus, arrêtez, laissez-moi tranquille. Mais mine de rien, les consommateurs aujourd'hui recherchent ça, c'est encore ce qui se vend le plus. Donc, ce qu'on a commencé à proposer, c'est des coffrets, entre guillemets, dématérialisés. On s'est associé à May, qui est une entreprise de santé en ligne pour les parents. Et où tu t'abonnes, en fait. Donc, tu peux offrir un coffret avec des produits Mustela et un abonnement de 6 mois à May Santé. Et comme ça, les jeunes parents vont pouvoir avoir accès à des médecins en ligne, même en pleine nuit.
Non, mais c'est une appli géniale. Moi, je l'ai eu pendant 1 an. C'est top.
Donc, voilà, on a une collab avec eux. Et ils font partie de la Maison des Parents, qui est aussi notre projet de service dans des lieux physiques. Donc, plutôt que les doudous et les trousses, il faut qu'on trouve d'autres solutions. Et après, sache juste que les doudous avec lesquels on signe, c'est des collabs avec le jouet simple, avec des entreprises qu'on est allé chercher parce qu'on estimait que justement, ils étaient dans le recyclage de plastique ou ce genre de trucs. Mais je suis d'accord, c'est très frustrant de voir qu'il y a encore des erreurs de champ lexical.
Et là, tu vois, je suis très dans le jugement parce que je fais exprès, je suis un peu gratte-poil et comme j'étais derrière le micro, j'en profite. Mais en fait, c'est au-delà de ça, tu vois, il y a beaucoup de encore une fois, de consommateurs qui sont très dubitatifs, en fait, sur les velléités des entreprises de s'engager plus loin, mieux, etc. Et je trouve finalement que ce genre de terminologie ne les rassure pas. Comment, toi, tu rassurerais, tu vois, une personne qui a vraiment envie de changer ses habitudes de consommation parce que cette personne aurait pris conscience, tu vois, de certaines urgences climatiques notamment. Comment tu rassurerais, toi, un consommateur qui craint souvent, à juste titre, le greenwashing des entreprises ?
Moi, je n'ai pas envie de rassurer les gens sur le greenwashing. Je trouve que c'est très bien qu'ils soient vigilants et qu'ils aient des doutes. Un truc tout con qu'on a fait, c'était fin 2019, j'étais là depuis 4 mois, on a lancé une première campagne qui s'appelait le Grand Scan. Et quand je suis arrivée en France, en tout cas, l'image de Mustela était dégueulasse. Il y avait énormément d'avis très négatifs sur la marque où ils disaient « les produits Mustela, c'est plein de cochonneries, jamais pour mon enfant, ça sent trop bon pour être crédible, etc. etc. » Et ce qui était marrant, entre guillemets, c'est que les équipes avaient pris l'habitude de faire l'autruche, tu vois, de pas vraiment répondre aux questions ou aux gens agressifs. Enfin, c'était un vrai tabou dans l'entreprise de se dire « mais pourquoi les gens sont si méchants, etc. » Donc, moi, je dis, mais les gens ne sont pas méchants. Les gens, ils doutent et ils ont raison de douter parce que pendant 30 ans, les entreprises ne se sont pas posées la question de ce qu'elles mettaient dans leurs cosmétiques. Et nous, y compris jusqu'en 2010, tu vois, les questions de parabènes, ça, je ne veux pas te dire une bêtise, mais ça doit être à peu près à la fin des années 2000 que la question a été soulevée. Donc, je pense que c'est ça aussi, et c'est les lanceurs d'alerte qui font que les entreprises, elles se changent. En revanche, je leur ai dit, ça ne sert à rien de faire l'autruche. Si vous estimez que sur certains sujets, il y a des fausses idées, des idées préconçues, répondez aux gens. Et donc, ne fuyez pas le débat. Et donc, le grand scan, c'était un appel aux gens à scanner nos produits avec n'importe quelle appli de notation. C'est-à-dire qu'on n'avait pas fait de choix. On a dit, scannez nos produits et peut-être vous serez surpris. En tout cas, et donc dans les communications, on mettait des vrais verbatims de gens qui disaient, Mucella, c'est que de la merde, tu vois, des trucs comme ça.
Je me souviens de cette campagne.
Ouais. Tu te souviens? Les équipes de com m'avaient dit, mais tu peux pas faire ça quand même. Enfin, les gens vont se souvenir que Mucella, c'est de la merde puisqu'ils vont voir le verbatim et ils vont oublier le reste. Tu fais, peut-être, mais peut-être aussi que de toute façon, ils le voient déjà quand ils vont sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui est intéressant, c'est de prendre ces arguments-là, de ne pas leur dire, vous avez tort, mais de leur dire, douter, c'est sain. Donc maintenant, scannez avec l'appli que vous voulez et faites-vous votre propre idée. Donc, si tu veux les rassurer, c'est pas parfaitement rassurant parce que les applis, c'est pareil, ça va, ça vient. Tu vois, je pense que même les applis, des fois, font des erreurs sur certains ingrédients. Donc, elles-mêmes, elles sont tout le temps en train de se remettre en question. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant d'écouter un tiers de confiance, qu'on appelle un tiers indépendant, s'exprimer sur ce que tu as mis dans tes produits. Et globalement, ce qui était intéressant, c'est que les gens ont découvert que non, nos produits, c'était pas si pire. C'était pas pire. Donc déjà, c'était intéressant parce que ça a créé du dialogue avec des gens qui nous haïssaient par définition et qui, en fait, se rendaient compte qu'on n'avait pas peur du dialogue, du débat. Il y avait certains produits sur lesquels on était dégueulasse. Et par exemple, c'était sur notre baume pour l'eczéma atopique. On avait décidé de mettre de la vaseline dedans, qui était très neutre. Et voilà, les dermatos ont plutôt tendance à recommander ça, machin. Donc, du coup, nos labos, c'était basé sur cette recommandation. Mais les applis trouvaient que c'était pas bon parce que la vaseline, c'est issue du pétrole. Ça peut être plein d'impuretés, etc. On avait beau dire aux gens, mais non, mais la nôtre, elle est pure. Globalement, t'arrivais pas à convaincre les gens. Et donc, on a décidé, aussi suite à ces dialogues, de reformuler ce produit. Et maintenant, c'est un produit qui est bio. Bon. Évidemment, c'est hyper convaincant parce que là, pour le coup, c'est une certification qui rassure beaucoup les gens, en tout cas sur le niveau de naturalité et sur le fait que tu vas pas avoir de perturbateurs endocriniens dedans. Néanmoins, même encore aujourd'hui où je suis plutôt sereine sur mon catalogue, je sais qu'il peut y avoir tout le temps des modifications à apporter. Tout le temps. On est tout le temps en permanence en train de découvrir des nouveaux trucs. Sur les filtres solaires, on a changé il y a 3 ans.
Oui, c'est ce que j'allais dire, ne serait-ce que parce que la connaissance aussi sur les matières premières et l'évolue également.
Les pollutions généralisées, que ce soit à cause du plastique que tu retrouves dans l'eau, que tu bouffes, hein, on bouffe l'équivalent d'une carte de crédit en plastique chaque semaine à travers l'eau qu'on boit, etc. Donc, c'est évident que les perturbations endocriniennes, le fait que la fertilité baisse aujourd'hui dans le monde est aussi lié à ces présences nocives. Et il y en a sûrement aussi dans des produits qu'on n'a pas encore spotés. Donc, je préfère jamais me dire que ça ne changera plus jamais et qu'on est parfait. On n'est jamais parfait et je pense qu'il y aura de nouveau des vagues où il faudra re-rénover les produits. Et c'est comme ça, c'est cette amélioration continue. Donc non, je n'ai pas envie de les rassurer. La seule chose qu'on peut leur dire, c'est qu'on a des produits. Donc pour le coup, je suis très fière. Ça peut être le Stellatopia Bio, effectivement. Ça peut être le solide. Mais encore aujourd'hui, ça reste des produits qui sont très peu vendus. C'est-à-dire que les gens finalement achètent encore aujourd'hui le produit qui sent bon, plein de parfums. Donc c'est ça qui est complexe, c'est qu'il y a une contradiction humaine, que je comprends, hein, on l'a tous, toutes, mais qui va faire que j'ai certains produits qui vont être extrêmement clean, mais qui vont bien moins se vendre que d'autres, où il y a du parfum, par exemple, qui toujours apporte le doute dans la tête des consommateurs, mais au final, les gens disent bah, « allez, je préfère avoir quand même un truc qui sent bon ». Donc nous, on doit s'adapter à ça, mais moi, j'aime bien que les gens doutent, en fait, et qu'ils prennent leur destin en main. Puis, je pense que c'est un très bon challenge, c'est quelque chose qui nous oblige à nous remettre en question, nous et nos concurrents.
Justement, tu parles de tes concurrents, on parle de la CEC, etc. En quoi c'est fondamental et le vrac, moi aussi, cet exemple, il me parle énormément parce que tu parlais du fait que le vrac, Mustela seul, n'avait pas forcément hyper bien fonctionné, mais que en faisant ce vrac avec d'autres marques qui peuvent être identifiées comme des concurrentes, ça avait plus marché. Donc, en quoi c'est fondamental pour toi de la jouer collectif?
Ben, tu vois, je te parlais de nos objectifs de mission. Il y en a un qui est de contribuer à fabriquer des nouveaux modèles d'affaires, finalement des nouveaux modèles d'activité avec des écosystèmes, ce qu'on appelle des écosystèmes de coopération, c'est-à-dire se dire, dans mon activité, c'est qui les gens qui bossent autour de moi? Alors évidemment, on pense fournisseurs, clients, ça c'est la base. éventuellement les gens qui vivent quand même autour de mon usine aussi, hein, parce qu'imagine j'ai une usine méga polluante, bah, ils vont être intéressés de le savoir. Donc mon écosystème de coopération et d'impact, c'est ça. Mais c'est aussi mes concurrents. Je pense qu'on a à tort, et pour le coup quand j'étais chez L'Oréal, il y avait encore ce sujet-là, il fallait prouver que quand tu faisais une amélioration un peu coûteuse, par exemple de ton emballage ou de ta formule pour qu'elle soit plus clean, il fallait prouver que c'était que ça rendait ton produit plus compétitif. Et je peux comprendre, hein, à l'époque, c'était cette idée, du coup, je vais le vendre plus cher ou je vais en vendre plus parce que les gens vont trouver qu'il est, voilà, qu'il est plus clean. Et en fait, je pense qu'il faut cesser complètement de trouver une source de compétitivité à travers ça. C'est comme si tu disais, un produit qui ne tue pas est plus compétitif qu'un produit qui tue les gens. Ben, en fait, non, la safety, la santé, la sécurité, ça doit être un sujet réglementaire et qui doit toucher l'ensemble d'une chaîne de valeur et d'une catégorie d'entreprise. Donc pour moi, être éco-compatible ou compatible avec les limites planétaires, c'est une question de santé publique. Certes, c'est une question de santé publique à 5, 10, 15 ans, mais ça reste une question de santé publique parce que dans 15 ans, toi et moi, on sera encore vivantes. Donc en vrai, c'est même pas nos arrière-petits-enfants qui vont vivre ça. C'est nous et nos enfants. C'est quelque chose de très concret et de relativement rapide à l'échelle de l'humanité. C'est demain, quoi. Donc, cette idée que c'est une question de compétition et que quand tu trouves, par exemple, une super idée d'un matériau qui remplacerait le plastique, tu le gardes pour toi et tu mets des brevets dessus, ça devrait être totalement interdit. Ça devrait, au contraire, être quelque chose qui passe dans le domaine public. Donc, ce qu'on a fait sur le vrac, on a lancé une première machine de vrac en 2020, monomarque. Super succès d'estime, tout le monde trouvait ça génial, mais globalement, dans les pharmacies, si le pharmacien et son équipe étaient extrêmement convaincus, bah, ils arrivaient à détourner les ventes en fait, de produits normaux vers ton produit en vrac. Mais il fallait vraiment du boulot parce que c'était, en gros, les gens arrivent avec leur téléphone dans la pharmacie, ils sont en train de répondre à un SMS, ils vont directement acheter leurs produits comme d'habitude et puis ils vont en caisse et voilà. Donc non, il fallait leur dire, vous avez vu, il y a une machine de vrac, ça vous intéresse, etc. Donc beaucoup de travail. C'était le Covid, donc les mecs n'avaient pas forcément le temps, etc. Mais on a quelques pharmacies où les gens sont tellement empli de cette mission qu'ils y arrivent super bien. Mais la majorité des pharmacies n'y arrivaient pas. Donc on s'est dit, il faut qu'on arrive à occuper plus d'espace dans la pharmacie pour que le truc soit tellement gros que l'équipe officinale se sente obligée. Voilà, alors que ce soit très visible et que l'équipe officinale se dise, attends, il faut que ça tourne parce que ça m'occupe beaucoup d'espace. Donc on a appelé les concurrents. Et puis il y en a quelques-uns qui ont répondu présent, des gros quand même. Hein. Donc on a La Rosée, Bioderma de l'entreprise Naos, on a Clorane, tu vois, donc Garantia, donc des belles marques qui se sont dit, on y va avec vous. Et l'avantage, c'est qu'on leur a dit, nous, ça fait déjà 2 ans qu'on se casse la figure là-dessus, on a plein d'apprentissages, donc on va vous les donner. Gratos, entre guillemets, à livre ouvert. On a fait des tas d'études de compatibilité entre le flacon, la pompe, etc. Tout ça, on partage. En échange de quoi, vous acceptez de rentrer dans notre système et puis on y va tous ensemble. Alors, on n'a pas le droit de partager nos prix, évidemment, hein, parce que tu sais, ce serait considéré comme un cartel ou je sais pas quoi. C'est interdit. En revanche, on a le droit d'avoir nos propres ventes et on voit qu'effectivement, les ventes de Mustela dans cette machine multimarque sont beaucoup plus grosses que les ventes quand on était en monomarque. Donc, le pari est plutôt réussi. Après, ça fait que 4 mois. Mais tu te rends bien compte que la coopération, même avec les concurrents, c'est quelque chose qui nourrit énormément. Et on fait un deuxième consortium avec des concurrents sur le plastique, justement, pour remplacer le plastique par d'autres matières et avec des startups de l'emballage, etc., qui bossent sur du recyclage de paille. Une fois que tu as coupé ton blé, il te reste de la paille, etc. Comment tu peux transformer ça en une nouvelle matière, peut-être avec un glacis, soit plastique, mais très léger, soit céramique. Enfin, ils ont plein d'idées. Et ça, c'est un truc qui va prendre du temps, qui nous demande un peu de sous. Mais au moins, à plusieurs, on sera peut-être capable d'avoir les quantités nécessaires pour faire exister cette nouvelle matière.
Tu vois, c'est hyper galvanisant. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien échanger avec toi. C'est que sans flagornerie et sans flatterie aucune, je trouve ça passionnant, en fait, en tant que consommateur, de voir en fait, comment une entreprise répond aux enjeux climatiques d'aujourd'hui et aux enjeux sociaux et environnementaux, et voilà, concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand on est une marque, comment on avance, et c'est passionnant, donc merci de t'ouvrir à nous avec autant de transparence sur le sujet. Pour finir, ce que je vois l'heure qui défile, et j'aurais encore 1000 questions à te poser, c'est un peu frustrant, mais on va quand même devoir terminer. Comme tu le sais, ce podcast traite d'un mode de consommation plus responsable au sens large, et donc je pose toujours 2 questions à mes invités en fin d'épisode. Qu'est-ce que tu es la plus fière d'avoir accompli jusqu'à présent, que ce soit sur un spectre pro ou perso?
Sur l'aspect professionnel, moi, je crois qu'on n'est pas encore arrivé à un niveau d'accomplissement qui fasse qu'on puisse être fier encore de ce qu'on a mis sur le marché. Après, je sais ce qu'on est en train de préparer et effectivement, j'ai des fiertés sur l'avenir. Mais sur l'état actuel, il y a des produits dont je suis fière parce que ils deviennent des vrais emblèmes finalement de ce qu'on veut devenir. Le baume universel à l'avocat, par exemple, il est intéressant parce que c'est un produit qui utilise l'avocat entier, genre jusqu'à on le presse, on le transforme, on utilise vraiment tout le fruit en entier. Ça, c'est intéressant. Et en plus, c'est des avocats qui sont écartés du tri alimentaire qui seraient jetés normalement. Donc, en plus, on est vraiment sur un truc qui est chouette. Et puis, les multi-usages, c'est cette idée aussi de te dire, est-ce que je peux, avec deux produits, arriver à faire à peu près la routine de toute ma famille? Moi, j'y arrive avec deux produits Mustela, qui sont donc ce baume, qui m'hydrate, qui me nourrit, et qui fait ça pour mon décolleté, ma peau de vieille, mais aussi mes enfants, tu vois, et mon mari quand il se rase. Mais j'ai aussi le solide, le shampoing solide, qui fait aussi savon, etc. Et j'arrive assez bien à faire ça avec les deux. Donc, ce côté très multi-usage, ça, je suis assez fière. Après, ce qui me rend fière, c'est que justement, ces produits, ils sont chouchoutés. Ils sont encore tout petits dans ce qu'on vend, mais les gens les adorent quand ils les essayent. Donc, tu dis, OK, on a réussi quand même à trouver un modèle intéressant là-dessus. Après, ma vraie plus grande source de fierté, finalement, c'est le changement d'état d'esprit des équipes dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, avant, je pense qu'il y avait cette idée de dire, il faut moins faire mal à côté. Tu as donc l'aspect RSE, puis tu as le côté business. Et aujourd'hui, l'intégralité des gens dans l'entreprise, et vraiment, quand j'ai intégralité, c'est étonnant de voir depuis l'opérateur à l'usine, le logisticien, la fille du marketing, la directrice du marketing qui est venue me voir à la fin de la CEC et qui m'a dit, tu sais, je crois qu'il faut qu'on tue la fonction marketing chez Expansion si on veut vraiment réussir notre redirection. C'est quand même très intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les équipes marketing internationales travaillent sur la redéfinition de leur métier, changer de nom, changer tout. Et c'est typiquement ce genre de truc qui va faire que tu retrouveras plus des je craque, et tu vois, parce que ce sera tellement intégré dans le quotidien des gens qui diront, ben non, je vais pas l'écrire comme ça. Donc, je pense que cette modification des métiers est super intéressante. Et quand tu as même les businessmen, tu vois, les patrons de pays et tout, qui te disent, j'accepte de perdre un peu de part de marché ou de faire des ruptures sur mes produits pour pas prendre l'avion, enfin, pour pas mettre mes produits dans l'avion, parce que l'aérien en transport de marchandises, c'est une catastrophe. C'est vraiment intéressant parce que tu te dis, c'est des changements d'état d'esprit qui seront gagnés pour la vie pour ces gens-là. Ils ne pourront plus jamais bosser dans une boîte, même s'ils s'en vont de chez Expansion, ils ne pourront jamais bosser dans une boîte qui fait pire, je pense. Donc ça, c'est ma fierté, c'est ce corps, en fait, ce collectif qui se change et qui est hyper volontaire. Et même si c'est très dur parfois, ils gueulent en disant, on a trop de choses à faire, on n'y arrive pas. Mais ils ont conscience que c'est utile et que c'est important et que c'est ça le projet, quoi.
Bah, je pense que de toute façon, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, on a tous envie de donner du sens à nos vies aujourd'hui. Et ce sens, quand on voit le travail, le temps que ça nous occupe et la passion qu'on peut y mettre, tout ce qu'on investit en fait en temps, etc. Aujourd'hui, je pense que on a tous envie d'avoir un quotidien qui a du sens. Donc, on peut comprendre les salariés de Mustela. Et qu'est-ce que tu aimerais encore améliorer ?
Écoute, je pense que si ce qu'on est en train de mettre au four, entre guillemets, donc les éco-recharges d'un côté, des tubes allégés en plastique, le vrac, le solide, tout ça, si c'est un succès, je pense qu'on pourra arriver à notre objectif qui est d'ici à 2026, on veut être sur quasiment un quart de notre offre qui soit disponible comme ça, soit en vrac, soit en solide, soit en recharge. Et après, on veut arriver au 100% en 2035. Ça peut vous paraître super lointain, mais quand je vois comme c'est lent, en fait, on va très très vite. Les changements de mode de consommation, tant que tu n'auras pas des réglementations. Moi, ce que j'aimerais améliorer aujourd'hui, c'est justement ça, c'est avoir un monde politique qui s'empare de ces sujets et qui comprend qu'on va avoir besoin d'eux parce qu'un pionnier tout seul, il peut tenir le coup pendant 4, 5, 6 ans. Il y a un moment où ça ne marchera plus, où je vais épuiser mes équipes et où je serai le seul couillon, tu vois, à faire ça. Donc, j'ai vraiment besoin, alors nous on va le faire aussi via des consortiums, etc., mais j'ai vraiment besoin aussi qu'à un moment la réglementation prenne le relais et interdise. Là, la loi AGEC interdit les produits à usage unique pour 2040. Mais en 2040, à quoi ressemblera notre monde en 2040, franchement? Il faut aller plus vite que ça. Donc, ce que j'aimerais améliorer encore, c'est plutôt la capacité de notre société à faire bosser ensemble les trois cercles qui sont les gens, les citoyens, la société civile, les ONG, toi et moi en tant que citoyens, le politique en tant que régulateur et puis le monde économique qui arrête de penser que oh, ça va, ils sont pas là pour faire de la morale, mais qu'au contraire, ils comprennent qu'une entreprise n'a le droit d'exister que si elle contribue à résoudre un problème, en fait.
Ouais, c'est ça, le fameux triangle de l'inaction.
Exactement. Et si ces trois parties-là commencent à arrêter de voir ce que l'autre devrait faire avant que moi je me bouge, je pense qu'on va, on peut accélérer un peu plus les choses. Donc c'est ça un peu mon Graal.
Merci beaucoup Sophie pour cet échange passionnant. J'espère que vous qui nous écoutez, vous trouverez des réponses ou en tout cas des zones d'intérêt dans notre échange. Merci Sophie et à bientôt.
À bientôt, merci Delphine.
Merci pour votre écoute. Si vous avez envie de soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles. Rendez-vous sur le compte Instagram Les Rencontres du Grand Large pour me faire part de vos commentaires, vos avis et vos envies. À bientôt pour un nouvel épisode.